Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Mason. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources disponibles sur le blog de Charlotte Mason France grâce à ce format audio des articles traduits par notre équipe. Cet épisode est le cinquième de la série du livre In Memoriam, que nous avons désiré vous partager en l'honneur du centenaire de la mort de Miss Mason. Comme dans l'épisode précédent, nous sommes dans la seconde partie qui rassemble les témoignages et souvenirs de proches, qui offre un regard plus intime sur Charlotte Mason et ceux qui ont partagé sa vie. Il s'agit aujourd'hui d'hommage des membres de la PNIU. J'ai choisi de vous en lire quelques-uns, mais vous pouvez retrouver l'intégralité sur notre blog. Le premier se nomme « Le travail de la journée » et a été écrit par son amie Elsie Kitching. Une grâce douce et envoûtante, un regard plein de sincérité, l'expression toujours réconfortante, l'évangile se lit sur ses traits. Un esprit a-t-il déjà été considéré comme un ami par autant de personnes d'âges si différents ? Les nombreuses lettres qui nous sont parvenues depuis le 16 janvier témoignent toutes d'un sentiment de perte personnelle. Les lettres de ses enfants, comme Miss Mason les appelait toujours, arrivèrent les premières, grâce à l'heureuse idée de Miss Parrish de leur envoyer un avis de décès avant qu'un communiqué de presse ne soit diffusé. Puis vinrent les lettres d'amis, de parents reconnaissants, de directeurs d'école, primaire et secondaire, exprimant pour la plupart d'entre elles un curieux sentiment de proximité avec l'esprit bien-aimé disparu. Une lettre provenant d'une école primaire demande des détails plus personnels et ces quelques lignes sont donc écrites pour ceux qui n'ont jamais rencontré Miss Mason, autrement que spirituellement. Jusqu'à la fin du dernier trimestre, Miss Mason continua sa vie au collège comme d'habitude. Elle assurait son cours du dimanche, était présente aux leçons de critique le jeudi matin et aux soirées Squall Out Tuesday. Lors de la visite de l'inspecteur en octobre, elle descendit à 9h30 chaque jour pendant 3 jours et passa la journée avec l'inspecteur. Elle était présente à la fête d'adieu des élèves et à la dernière conférence des seniors en décembre, puis elle partit en voiture comme d'habitude le 16 décembre. Mais le 11 janvier, elle écouta et choisit 2 articles proposés pour la Parents Review et le 12, elle écouta les lettres les plus importantes et approuva ou non les réponses suggérées. Elle n'évoqua jamais les pénibles journées et les nuits de douleur. Elle continua à apprécier la lecture à haute voix jusqu'à la fin, puis elle s'endormit. Malgré une santé fragile et de nombreuses souffrances pendant 30 années, Miss Mason mena la vie d'une femme pleinement occupée. Une semaine seulement avant son décès, elle déclara « Il est si difficile de se mettre à la place d'un invalide. » Elle ne s'est jamais considérée comme une invalide et a planifié sa vie et son travail sans penser à aucun autre handicap personnel que celui de l'inactivité physique. Ses journées s'écoulaient avec une régularité d'emploi, une plénitude de joie de vivre, de travailler, qui ne laissait aucune place aux pensées personnelles, aucun regret de ne pouvoir exercer l'hospitalité à laquelle elle aspirait ou de rencontrer les nombreux amis et connaissances qui n'auraient été que trop nombreux de venir la voir. Elle avait le génie de l'hospitalité et de la conversation et pendant les vacances d'été, lorsqu'elle était moins occupée, elle rencontrait souvent des hommes et des femmes d'affaires distingués et la conversation était brillante. Mais l'effort physique de la conversation lui coûtait toujours beaucoup et elle dut souvent refuser la venue d'un visiteur distingué de peur que l'effort ne la rende inapte au travail qui ne cessait de la solliciter. Chaque jour apportait son lot de travail. Obligations éditoriales, intendances, questions diverses liées au collège, travail constant pour la Parents Union School, et ce n'est que par la plus grande régularité des heures de travail et des moments de loisirs que le travail pouvait se poursuivre. Mais comment aider quelqu'un à comprendre la façon dont Miss Mason répondait aux demandes qui lui étaient faites ? Les détails peuvent sembler si minimes, le résultat est si important. Les vers en tête de ce papier donnent une idée de l'attitude de notre chef bien-aimé à tout moment, et en particulier lorsque le travail de la journée commençait. Elle pouvait avoir passé une nuit d'insomnie ou de douleur, Mais après sa routine matinale, une lueur apparaissait sur son visage. Une lueur qui s'accrut avec les années, qui nous faisait nous arrêter avec révérence. Une lueur que seuls les évangiles peuvent apporter. Le travail de la journée commençait par le courrier à 9h30. Chaque lettre, chaque carte qui arrivait était examinée, les réponses discutées, parfois une lettre dictée, bien que ces dernières années, Miss Mason écrivit beaucoup de lettres elle-même. Les lettres étaient très variées, une mère demandant de l'aide pour un enfant difficile, un étudiant demandant des conseils, un autre changeant de poste, un père adressant ses remerciements pour les succès de son fils à l'école, entièrement dû à sa préparation à la PUS. Une carte demandant une considération spéciale concernant la date d'envoi de papier. Des lettres demandant des conseils sur une école de la part de parents revenant de Chine ou de Madagascar, par exemple, avec des enfants qui avaient jusqu'alors travaillé à la PUS. Ces demandes et bien d'autres étaient traitées, toujours en partant du principe qu'un enfant ou un adulte est une personne. Les lettres demandaient parfois réflexion et Miss Mason disait: je vous donnerai la réponse demain. Et le lendemain, la réponse était prête sans qu'il soit nécessaire de lui faire un rappel. La lettre recevait une réponse détaillée sans qu'il soit nécessaire de relire ses pages. Elle disait constamment: souvenez-vous toujours que les personnes comptent plus que les choses. Ne dites rien qui puisse laisser une blessure. Les lettres terminées, la gouvernante venait parfois pour une brève conversation sur les détails du ménage, les comptes, quelques réparations, une nouvelle femme de ménage, les repas des élèves. Puis venait le travail de la matinée. Si nous étions la première semaine du mois, nous examinions la Parents' Review, les articles soumis, lus et acceptés ou non, et les articles à écrire, nombreux, que nous nous demandions comment obtenir. Nous voulons un article sur ce sujet? À qui demandera-t-on de le faire? Miss Mason traitait chaque document comme son auteur, avec un respect sans borne. Elle ne modifiait ni ne réarrangeait, car elle avait trop de respect pour l'auteur. Elle refusait souvent un article qui nécessitait des omissions à cause de certains des enseignements qu'il contenait, de peur de gâcher la création de l'auteur, un produit vivant de son esprit. Deux ou trois matinées pouvaient être consacrées à la critique d'ouvrage. Elle dictait les critiques sans interruption à un dactylographe, après avoir lu les livres pendant ses heures de loisir. Les articles de conférence étaient toujours dictés de la même manière et envoyés à l'imprimeur avec à peine une correction. À 11h, les mauvais jours, elle était parfois trop fatiguée pour continuer. Donnez-moi un punch, disait-elle, si c'était mercredi. Ou un trollop et revenait dans 20 minutes. Et elle pouvait reprendre, reposer et revigorer au bout de ce laps de temps. Le travail sur environ une quinzaine de jours était consacré aux copies d'examen écrites par les enfants. Elle les examinait avant de signer le bulletin, parfois en les modifiant ou en ajoutant quelques mots elle-même, comme elle aimait lire les copies des élèves. Je suis toujours heureuse quand je les lis, disait-elle. Voyez comme ces enfants prennent plaisir à travailler. La préparation des nouveaux programmes et des questions d'examen se faisait le matin pendant plusieurs semaines. Le choix des nouveaux livres prenait beaucoup de temps. Miss Mason les testait elle-même pour la narration, les examinait, les rejetait, en commandait d'autres, car elle consultait toutes les listes de nouveaux livres et se renseignait sur tous les livres qu'elle pensait susceptibles de répondre à ses attentes. À 12h15, elle s'arrêtait de travailler, suivait 10 minutes de lecture de l'un de ses auteurs classiques préférés. Et à 13h, elle était prête pour le déjeuner avec les étudiantes. Après le déjeuner, il y avait des entretiens occasionnels et la lecture à haute voix d'un livre de voyage ou d'une biographie. À 14h15, quel que soit le temps, à moins qu'il ne pleuve abondamment ou qu'il y ait un peu un vent violent, Miss Mason sortait dans sa petite Victoria jusqu'à 16h. Sa vie était une épreuve constante de la joie de la science des relations, de ses relations avec la terre, avec les hommes, avec les oiseaux, avec les bêtes et les fleurs, et avec Dieu. Elle ne revenait jamais sans une trouvaille, une fleur fraîchement éclose, un nouveau sous-entendu, un nouvel aspect de la beauté dans le ciel ou sur les collines. Et elle était impatiente d'entendre ce que les autres avaient à raconter. Après le thé à 16h, Elle passait 1 heure avec la directrice adjointe à examiner les offres de poste, les lettres des dames qui cherchaient des élèves gouvernantes, les lettres des élèves qui cherchaient des postes de gouvernantes. Tout cela étudié du point de vue de chaque partie. Elle passait en revue les besoins de la dame et ceux de l'élève afin d'y répondre au mieux et de mener chaque personne là où Dieu voulait qu'elle s'accomplisse. Venait ensuite la lecture ou la correction de papier jusqu'à 18h, puis un de ses romans préférés de longue date, Charlotte Brontë, George Eliot, Thackeray, Meredith, Jane Austen, jusqu'au dîner à 19h. Après le dîner, le Times, des récits de voyage, des essais littéraires, des mémoires étaient lus à haute voix. À 20h45, Miss Mason s'installait dans son fauteuil roulant et prenait, pour finir, sa lecture du soir et un roman de Scott. Elle lisait toujours un peu de Scott en dernier, et lorsqu'un roman était terminé, un autre prenait sa place. Et ce, depuis 30 ans. Miss Mason appréciait tout trait d'humour ou toute bonne histoire qui lui parvenait. Elle aimait entendre parler de la joie des enfants dans leur travail. Elle était toujours touchée aux larmes quand quelqu'un manifestait une compréhension réelle des principes qu'elle s'efforçait de faire connaître, ou par toute preuve de cette merveilleuse perspicacité dont un enfant fait preuve lorsque son esprit a reçu ce dont il a besoin pour se nourrir. Ces choses-là prendraient des pages à raconter. Miss Mason n'avait pas de sentiments personnels. Elle ne pouvait pas être blessée par un manque de compréhension, mais oh, comme elle se sentait encouragée et aidée quand on reconnaissait ce qu'elle essayait de faire en dépit de tant d'intérêts personnels. Elle ne s'intéressait pas aux biens matériels, elle acceptait rarement les cadeaux. Mais tout hommage de compréhension, toute reconnaissance de la philosophie qui lui était si chère, était un cadeau à chérir. Elle n'a jamais hésité sur la valeur de la philosophie. Elle en avait acquis une grande partie à 25 ans, ou même plus tôt, et elle disait souvent combien il était étrange qu'elle ne puisse que répéter ce qu'elle avait dit si souvent. Ses réponses dictées aux lettres étaient les mêmes que les pages de Home Education. Elle répondait aux lettres ennuyeuses avec une douce gracieuseté et disait « Souvenez-vous que personne n'est fait d'un seul défaut, chacun est beaucoup plus grand que tous ses défauts. » Puis elle ajoutait en souriant « Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de supporter les défauts des gens que leurs vertus. » Miss Mason abordait rarement des sujets controversés. Elle lisait très peu sur des sujets à controverse. Elle refusait catégoriquement d'entrer dans l'arène pour condamner des théories avec lesquelles elle n'avait aucune sympathie. Elle priait, ne nous soumets pas à la tentation, en pensée comme dans d'autres domaines, et elle ne laissait pas ses pensées s'égarer sur les nombreux chemins de traverse de la pensée moderne, alors qu'il y avait tant à faire sur les routes principales. Miss Mason détestait toute forme de bureaucratie ou de dispositif, et elle redoutait l'organisation. Dans la mesure où un travail a besoin d'organisation, il manque de vie, disait-elle souvent. Ne faites pas de plan pour organiser le travail scolaire à l'avance. Il doit être renouvelé chaque trimestre, sinon il deviendra sec. Les choses doivent être jugées par rapport à leur propre mérite, pas selon des règles préétablies. Ne perdez pas de temps à copier. Miss Mason retirait un livre de l'école s'il ne permettait pas aux enfants de faire du bon travail. Elle ne comptait jamais les heures de travail et ne se permettait pas de penser aux problèmes le soir. Elle ne prenait jamais de décisions hâtives, même lorsqu'elle était pressée de le faire. Elle prenait le temps d'examiner les nombreux problèmes qui se rattachaient inévitablement au vaste travail dont elle était la seule responsable. Elle avait un pouvoir merveilleux pour estimer la valeur de toute chose, qu'il s'agisse d'un problème psychologique dans un livre, d'une découverte scientifique, du caractère d'une personne, d'un devis de constructeur ou d'un travail d'enfant, sur papier ou travaux manuels. Elle voyait toujours les détails essentiels, la tendance d'une ligne de pensée, l'erreur de raisonnement dans un argument, le point faible d'une hypothèse, la faiblesse d'un caractère. Elle n'en parlait pas, mais elle en devinait sa connaissance de ces choses lorsque c'était nécessaire. Elle ne parlait jamais des étudiantes ou d'un enseignant avec l'équipe enseignante, ni du travail d'une personne avec une autre. Elle assumait jusqu'au bout ses propres responsabilités et protégeait tendrement ceux qui travaillaient pour elle de toute inquiétude quant aux moyens à mettre en œuvre. Et les moments difficiles n'étaient pas rares, car elle assumait seule la responsabilité financière et continue avec foi et courage alors que beaucoup d'âmes moins fortes à la vie si fragile auraient vacillé. Elle ne se laissait jamais aller à l'anxiété. Elle évitait d'exprimer ses opinions personnelles de peur qu'elles n'agissent comme des suggestions sur ceux qui l'aimaient. Elle se méfiait de l'influence personnelle qui limitait et rabaissait la personne influencée. Et elle s'opposait fermement à toute forme d'influence personnelle sur les personnes avec lesquelles elle entrait en contact. Elle posait des principes et attendait que les autres réfléchissent dans le même sens qu'elle et trouvent la bonne solution. Elle ne voulait pas délivrer ceux qui aimaient de la douleur de penser par eux-mêmes. Et parfois, ceux qui ne comprenaient pas prenaient son silence pour un consentement lorsqu'il suggérait des choses qu'elle ne souhaitait pas. Ils ne savaient pas qu'elle attendait seulement qu'ils pensent clairement par eux-mêmes. La vie était trop remplie, elle était trop fragile, il est vrai, pour parler beaucoup et elle ne pensait pas non plus qu'il était sage de le faire. Elle réfléchissait et agissait et elle souhaitait que les autres réfléchissent aussi. Son inactivité magistrale avait de quoi étonner, alors qu'elle aurait pu facilement faire avancer les choses ou la penser dans le sens qu'elle jugeait bon. Un mot de sa part, aussi aimé soit-elle, aurait suffi, mais non. Son travail devait être accompli avec l'esprit et le cœur d'une personne non affaiblie par l'influence personnelle, si l'on voulait que le travail soit accompli par un ressort, et non par un levier. Son pouvoir d'attention était égal à celui qu'elle revendiquait chez les enfants. Elle accordait toute son attention à ce qu'il exigeait, un livre, une conversation, l'intendance. Sa perception de la voie de la volonté et de la voie de la raison la rendait attentive à ce que l'élève ou l'enfant responsable ne s'égare pas dans l'entêtement ou dans une réflexion tortueuse. Il est certainement rare qu'un philosophe applique sa propre philosophie à sa vie quotidienne comme le faisait Miss Mason. Beaucoup de philosophes se contentent de la joie suprême de l'effort intellectuel. D'autres se contentent de faire des expériences. Mais Miss Mason mettait chaque dicton de sa philosophie au service de la vie quotidienne et de ses besoins. Sa philosophie sous-tendait toutes ses actions, car elle disait toujours que la pensée juste était l'acte le plus important dans la vie d'un homme. S'il pensait correctement, il agissait correctement. Elle protégeait la philosophie qui était sa responsabilité avec un soin jaloux qui poussait parfois les gens à s'étonner, voire à critiquer. Mais c'était une responsabilité si entièrement indépendante d'elle-même et de toute considération personnelle qu'elle pouvait en parler, l'examiner, la soutenir, l'entretenir. C'est aussi ce qui permet aux disciples de sentir qu'il s'agit d'une responsabilité sacrée qu'ils doivent eux aussi protéger pour le bien du monde. Je vais ensuite vous lire un second témoignage, celui du cocher, Monsieur Barrow. Il l'a intitulé « L'amour de Miss Mason pour les routes de campagne ». Ayant servi ma chère et regrettée maîtresse pendant 24 ans, je voudrais faire connaître son amour et son intérêt pour tout ce qui remue ou pousse le long des chemins et des landes. Car c'était un plaisir de Miss Mason de rechercher les chemins et les landes tranquilles, loin des moteurs bruyants. Et ce n'est que très récemment, selon ses propres termes, qu'ils ont commencé à braconner sur nos chemins privés. Depuis 1898 et pendant de nombreuses années, Miss Mason emportait le panier à thé pour sa promenade, lorsqu'elle partait avec la regrettée Miss Armit, l'honorable Miss Franklin et d'autres personnes. S'il faisait chaud, elle allait dans les bois près du lac, en direction du ferry. S'il faisait frais, Miss Mason appréciait la colline entre Chapel Style et High Close, d'où l'on avait une vue incomparable sur la rivière, le lac et les montagnes. Nous pouvions faire au moins 20 promenades différentes, parcourant très rarement la même route au retour, sauf en arrivant près de la maison. Chaque promenade avait son charme. En septembre, les teintes automnales étaient plus belles sur l'une d'entre elles. En octobre, une autre était plus colorée. En novembre, les fougères sur les montagnes prenaient la chaude couleur rousse qui faisait le bonheur de Miss Mason. En décembre, un coup de froid poussaient les vanneaux huppés à s'abriter dans leur lieu de prédilection, et nous savions alors qu'une tempête se préparait. En décembre, janvier et février, nous observions généralement les différentes espèces de canards sauvages sur Elterwater, Logrig, Tarn et Riddlewater. Fin février et début mars, les oies sauvages migraient vers leur lieu de reproduction sur la côte écossaise, Barngates étant leur route favorite. C'est au cours de cette promenade en 1920 que Miss Mason aperçut un couple de jaseurs tout près d'elle, et à une autre occasion, trois suzerains. Vers la fin du mois de mars, nous surprenions le courlis cendré près de Barngates, venu chercher son aire de nidification. En avril, nous observions le rouge-queue à front blanc et le traquet moteux. Bien qu'il s'agisse de petits oiseaux, l'œil averti de Miss Mason les manquait rarement, même en 1922. Chaque promenade semblait apporter quelque chose de particulier. Un coin tranquille produisait des fleurs de noisetier, un autre des fleurs de tussillage. Certains chemins abondaient en églantines et en chèvrefeuilles. Un autre en trèfle d'eau et en myrte des marais. Un autre en parnassie des marais. Et même le petit polygale n'échappait pas à l'œil vif de Miss Mason. Très souvent, nous suivions les voies de la nature pour échapper à la tempête. Parfois, alors que tout était calme à la House of Education, à l'abri des vents du nord et de l'est, en y revenant, nous faisions face à un vent violent et nous devions ruser comme le renard et longer la côte abritée de Logrig jusqu'à Skelwith Bridge, de là jusqu'à Barngates, et dos au vent, nous pouvions faire notre petit tour sans inconvénient. Miss Mason aimait beaucoup son cheval, qui l'aidait souvent à s'approcher des oiseaux, car ceux-ci ne craignent pas tant les animaux que les personnes. Et c'était toujours la première question qu'elle posait lorsqu'elle séjournait dans un hôtel pendant les vacances de Pâques. Est-ce que moi et sa petite jument préférée, Duchesse, avions été confortablement installés et bien nourris ? À ses amis qui lui demandaient pourquoi elle n'avait pas de moteur, elle répondait « Je peux parler à un cheval, mais pas à un moteur ». Pour illustrer son propos, je me souviens très bien qu'une fois, par un jour d'orage, près des chutes de Shellwith, Miss Mason souhaitait rentrer, ne se sentant pas bien, et qu'elle m'avait donné l'ordre de faire demi-tour. À cause du tumulte de l'eau, je n'entendis pas les paroles de Miss Mason, contrairement à la Duchesse, et lorsque je tentais de l'empêcher de faire demi-tour, Miss Mason me dit que c'était tout à fait normal, que Duchesse avait entendu et savait ce qu'il fallait faire. Le sang-froid de Miss Mason au cours de ces dernières années a été merveilleux, car nous avons rencontré toutes sortes d'automobilistes, certains imprudents, d'autres pas. Il nous est même arrivé d'avoir les pieds du cheval sur le capot du moteur. Elle est restée calme alors que beaucoup de personnes plus jeunes auraient été prises de panique et se seraient probablement blessées gravement en sautant. Miss Mason était toujours ponctuelle, ne faisait jamais attendre l'homme et le cheval et ne quittait jamais sa voiture sans dire gentiment « Bonne fin de journée, merci Barrow !» Et si notre promenade avait été prolifique en oiseaux, etc. « Oh, nous avons fait le plein de rencontres splendides !» Je suis fière d'avoir eu l'honneur et le plaisir, car c'était un plaisir, de conduire une dame si aimable et si noble que personne ne peut égaler. Et elle est partie en paix. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les autres témoignages sur notre blog. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.